Raphaël Jacob est avec nous. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, Paul.
Beaucoup de nos auditeurs et auditrices disent, on a beaucoup parlé de Trump, on veut savoir si Melania, sa conjointe, la première dame, va bien. Il semble que oui.
Il semble que oui, au dire du président, tout au moins. C'est ce qu'il a déclaré dans la fameuse vidéo là, qui fait le tour des médias sociaux depuis hier. Il a mentionné que son épouse allait très bien, en partie à cause de son âge, qui est un petit peu moins avancé que le sien, on doit le dire, je pense.
Ben c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo.
C'est ce qu'il a lui-même dit.
On a un petit décalage d'âge.
un modeste décalage, en effet. Donc, aux dernières nouvelles, elle irait bien.
Alors... Nous sommes encore en pleine confusion à partir de Washington en ce dimanche matin, M. Jacob.
C'est le moins qu'on puisse dire, Paul, parce que, écoute, depuis quoi, à peu près 72 heures, on semble souffler le chaud et le froid, le chaud et le froid, et tu as eu, je pense, une illustration assez remarquable de ça hier, tout de suite après le point de presse formel du médecin personnel du président. Parce que, et ça, on en a parlé beaucoup, mais je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attarde encore une seconde ensemble ce matin, Paul. C'est que, donc, le médecin Conley, le docteur Conley, le médecin du président, sort et, dans un point de presse très confus, mais qui se voulait très optimiste, insiste sur le fait que le président va bien, qu'il n'y a pas d'embûche, le pire est derrière, etc. Et tout de suite après coup, il y a le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, qui s'entretient avec les journalistes, mais qui, initialement, ne veut pas être identifié comme la source qui parle aux journalistes. Donc, dans les premières heures qui sont sorties après le point de presse, on a eu d'autres articles qui sont sortis disant, écoutez, on a une source au sein de la Maison-Blanche qui contredit essentiellement ce que le médecin du président dit, parce que la source en question dit qu'on est très, très loin d'un scénario aussi rose que ça et que dans les 48 prochaines heures, on pourrait carrément déterminer si le président va survivre ou non. On était donc à 180 degrés du discours officiel du médecin et on ne savait pas exactement qui était cette source-là jusqu'à temps que quelques heures plus tard, samedi, donc hier, on apprenne que c'était nul autre que le chef de cabinet du président qui avait déclaré ça. Donc là, on est le lendemain. Évidemment, on a vu cette vidéo-là qui entretient et qui cause presque plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Donc, encore une fois, c'est la confusion. Et je te dirais, Paul, qu'en énorme partie, c'est causé par un manque de confiance généralisé envers ce président et cette Maison-Blanche-là, qui, évidemment, date de bien avant l'arrivée de la COVID-19.
Et ce qui entraîne l'agitation, c'est que on semble avoir isolé cet événement de la nomination de la nouvelle juge de la Cour suprême dans ce qu'on appelle le Rose Garden sur la pelouse de la Maison-Blanche comme étant peut-être une source de transmission et de propagation. Hier, la dernière victime, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Donc, on en est, je crois, à 11 personnes qui ont été contaminées lors de cet événement de dimanche dernier.
Absolument. Et on n'est probablement pas à la veille d'arrêter d'en entendre parler là et de vouloir savoir qui peut-être va être diagnostiqué, qui ne sera pas. Donc, cette histoire-là est loin d'être terminée. Et Paul, en parlant de Chris Christie, je pensais à ça depuis hier. Et il y en a plusieurs qui, probablement, t'ont écrit comme ils m'ont écrit à moi en disant, écoutez, est-ce qu'on sait vraiment, même si Donald Trump a vraiment contracté la COVID-19, peut-être que c'est juste une espèce de manigance pour aller chercher la sympathie.
Ah non, il y en a beaucoup qui croient ça, là, en ce moment même, là.
On a des conspirationnistes parmi nous, Paul. Et le lien avec Chris Christie est le suivant. C'est que, pour ceux qui pensent que Donald Trump est gagnant du fait d'avoir contracté la COVID-19, là, au niveau de l'opinion publique américaine, détrompez-vous. Premièrement, on a des toutes nouvelles données de sondage publiées dans la dernière heure qui démontrent que, écoute bien ceci, plus de 60% des Américains tiennent le président personnellement responsable pour avoir contracté la COVID-19, disent que si le président Trump, et ça, c'est le libellé exact du sondage, là, si le président Trump avait pris le coronavirus de façon plus sérieuse, il n'aurait probablement pas été infecté. On est à 65%, les deux tiers des Américains, et ça, Paul, ça inclut la moitié des électeurs républicains, donc la moitié des électeurs de son propre parti qui le juge personnellement responsable. On est très, très loin du capital de sympathie. Et justement, le lien avec Chris Christie. Chris Christie est l'ancien gouverneur du New Jersey. L'homme que Chris Christie a battu comme gouverneur, qui était le gouverneur sortant, le prédécesseur de M. Christie, est un type qui s'appelait John Corzine. Et John Corzine, pendant son premier et seul mandat comme gouverneur du New Jersey, a eu un très grave accident d'auto et passé à, en fait, un doigt de la mort. Et très loin de pouvoir bénéficier d'un capital de sympathie, les électeurs de son État s'était retournée contre lui. Pourquoi, Paul? Parce qu'on avait appris que le gouverneur Corzine avait roulé à près de 100 000 à l'heure avant son accident. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Si on juge au niveau de l'opinion publique que le président est personnellement responsable de son infection, on s'entend que le capital de sympathie dont il va jouer risque de pas être énorme, et c'est ça qu'on s'en voit présentement.
Et toi qui as refusé, évidemment, par sens éthique, de te prononcer sur le fait que Trump pourrait bien être battu à l'élection, je veux quand même te rappeler que l'historien Alan Lichtman, qui a prédit avec succès à chaque élection depuis 1984, qui allait devenir président, il affirme que Donald Trump ne sera pas réélu le 3 novembre. Il s'est jamais trompé depuis 1984.
Ben, premièrement, juste peut-être pour préciser, je ne sais pas si c'est par sens éthique ou par choc post-traumatique que je me mouille pas, mais je te dirais quand même ceci pour ce qui est du professeur Lichtman, qui est un génie de l'autopromotion, parce que ce type-là, honnêtement, était connu d'à peu près personne jusqu'à novembre 2016, et suite à sa prédiction fructueuse, évidemment, pour ce qui est de l'élection de Donald Trump, là, fait parler de lui depuis 4 ans. Un petit bémol quand même, et je le dis avec tout respect, là, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dans la mesure où le fameux modèle dont il parle là, donnait Al Gore gagnant en 2000 et Donald Trump gagnant en 2016. La raison pour laquelle je te mentionne ça, c'est que Al Gore avait gagné le vote populaire, perdu le collège électoral en 2000, et M. Lichtman avait dit à l'époque, ben mon modèle a fonctionné, c'est le gagnant du vote populaire que j'avais prédit. Et là, en 2016, c'était l'inverse. Il a dit, mon modèle fonctionne, le gagnant du collège électoral était celui que j'avais prédit. Okay. Et ça, il n'y a à peu près personne qui le dénote. Donc, avec tout le respect, je mettrais un petit bémol là-dessus.
Quand alors, Raphaël, je crois que tu vas être d'accord avec moi. Semaine cruciale, mais journée cruciale. Là, il va falloir que ça soit clair et net, c'est-à-dire que la Maison-Blanche, que Washington soit en mesure de nous dire s'il y a une évolution positive ou négative de l'état de santé du président.
Oui, ça va être vrai aujourd'hui, ça va être vrai pour le début de la semaine, et surtout, Paul, surtout, ça va être vrai pour mercredi, parce que mercredi, on a évidemment le débat vice-présidentiel. Comment voulez-vous que Mike Pence, le colistier donc de Donald Trump, soit capable de faire passer quelques messages que ce soit auprès de l'électorat si on n'est pas, en bon français, seté, si c'est pas clair par rapport à l'état de santé de son patron, du président des États-Unis?
Mais son état de santé à lui aussi, corrige-moi si j'ai tort, le fait que le président des États-Unis soit hospitalisé, on ne lui a pas retiré ses pouvoirs, il est en mesure, semble-t-il, donc, d'exercer ses fonctions, il faut quand même protéger l'état de santé du vice-président au cas où.
Absolument, absolument. Et dans le contexte, évidemment, il n'y a personne qui souhaite ça, on souhaite de mal, personne qui est infecté, ça inclut le président des États-Unis, mais si jamais on devait être dans un scénario où le président était incapacité, où en fait, était jugé comme étant incapacité, donc la nuance est importante. Autrement dit, si on avait par exemple une majorité de son cabinet qui croyait qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions, en vertu du 25e amendement de la Constitution américaine, les pouvoirs présidentiels pourraient être donnés directement à Mike Pence. Donald Trump n'aurait pas été besoin de décéder pour
ça. Oui, mais qui a été en contact assez rapproché avec le président, compte tenu, Raphaël, et c'est ça la grande question, on ne sait pas vraiment le moment où le président a été déclaré positif à la maladie.
Non, ça demeure une des controverses les plus centrales. Et on se parlait hier du espèce de point de presse extrêmement confus de son médecin hier. Ben, en énorme partie, ça a entretenu cette controverse-là. Parce que le docteur Conley a déclaré que, écoutez, ça fait 72 heures que le président a commencé son traitement. Et après coup, on s'est dit, ben là, si on parle de 72 heures, ça veut dire qu'il aurait été infecté. En fait, il aurait été diagnostiqué mercredi après-midi, alors qu'on a eu les nouvelles seulement jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là, la précision, entre guillemets, qui a été donnée après coup, c'est-à-dire, ben, par 72 heures, ce qu'on voulait vraiment dire, c'est qu'on était rendu au jour 3. Ouais. Donc, jour 1, c'était le mercredi, jour 2, c'était le jeudi, pardon, jour 2, c'était le vendredi, jour 3, c'était le samedi. Donc, confusion énorme qui règne, Paul.
Alors, par rapport à tout ça. Boris Johnson, qui est passé par là, le premier ministre du Royaume-Uni, il avait fait une vidéo, je ne sais pas si tu te rappelles, Raphaël, en disant « Je vais très bien, je vais pouvoir assumer mes fonctions de premier ministre. » Et ça s'était dégradé tellement rapidement. Et Boris Johnson est revenu un homme transformé parce qu'il a survécu de peu à la mort, c'est-à-dire à la COVID-19. Mm-hmm. Et il a dit, là maintenant, je comprends la gravité de cette maladie-là dans certaines circonstances. Je suis passé par là.
Oui, et le parallèle avec Boris Johnson il est également pertinent pour une autre raison, et c'est celle-ci. C'est que la Maison-Blanche s'est voulue très rassurante dans les heures avant et après le début de l'hospitalisation du président en disant, écoutez, il n'y a rien là, on l'envoie à l'hôpital Walter Reed, c'est vrai, mais c'est seulement sur une base préventive. Or, dans le cas de Boris Johnson, le premier ministre britannique, c'est exactement le même genre de discours qu'on tenait, que le gouvernement britannique tenait à l'époque, en disant, quand il est entré à l'hôpital, ben faites-vous-en pas, c'est juste sur une base préventive. Écoutez, il a failli y passer. Et donc, un petit peu comme je le disais plus tôt, Donald Trump a à peu près 20 ans de plus, en fait, que Boris Johnson. Donc, il y a cette question-là, il y a toutes ces questions-là qui se posent par rapport, encore une fois, à la véracité réelle de l'état de santé du président.
Est-ce que tu as vu, Raphaël, sur les réseaux sociaux, Donald Trump... Trump a signé un document. Puis on dit que c'est un document, en fait... Tu sais, il y a comme une polémique autour de ça. On dit qu'il a signé un document, mais finalement que c'était une feuille blanche pour montrer qu'il était encore capable. De...
Ouais.
Quelle drôle d'histoire, quand même.
Oui, quelle drôle d'histoire. Puis sais-tu ce qui est drôle, quand même, là-dedans, Thérèse? C'est que, en ce qui me concerne, c'est très semblable à ce qu'on voit depuis tout le début de cette saga-là. C'est-à-dire, c'est de l'amateurisme, c'est du chaos et c'est de la confusion. Et c'est vrai depuis... Le diagnostic positif du président dans le cas le très, très spécifique de la COVID-19.
Oui.
Mais on pourrait remonter au début de sa présidence. Une de ses premières décisions comme président, vous allez peut-être vous en souvenir, c'était son fameux décret hyper controversé sur est-ce qu'on interdit ou non aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis. Oui. Et ce décret-là avait été fait de façon tellement chaotique, personne ne savait qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'était pas clair exactement ce que l'administration voulait faire, voulait pas faire.
Oui.
C'était le chaos dans les aéroports d'un océan à l'autre. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on voit depuis les derniers jours.
Et c'est rappelé dans le livre Rage de Bob Woodward. Merci beaucoup,
Paul, Raphaël. Est-ce que tu me laisses un petit 10 secondes pour faire rire peut-être les auditeurs?
9,85 secondes.
Écoute, Saturday Night Live, hier soir, avec Jim Carrey dans le rôle de Joe Biden, qui se moque un petit peu de la condition du président. Si on peut écouter ça, si jamais c'est possible.
Because I believe in science and karma. Now just imagine if science and karma could somehow team up to send us all a message about how dangerous this virus can be.
Imitation vocale et physique parfaite de Joe Biden par Jim Carrey. Merci, Raphaël.
Merci, Paul.
Salut.